Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, quand le diable sortit de la salle de bain, de Sophie d'Ivry, aux éditions Noir sur Blanc.
Je vais vous lire le début d'un livre d'Hubert Selby qui s'appelle Le Démon. Ses amis l'appelaient Harry. Mais Harry n'enculait pas n'importe qui, uniquement des femmes mariées. C'est le début du roman Le Démon d'Hubert Selby, traduit par Marc Gibault. Donc c'est un des rares livres de Selby où il s'attaque à la classe moyenne, alors que sinon c'est plutôt un écrivain prolétarien, pour dire les choses, même si c'est évidemment l'histoire d'un obsédé sexuel. Un portrait au vitriol du modèle de bonheur américain, et de la famille et de la réussite économique, relu sous le mode de la prédation. En fait. Et c'est la destruction intérieure par un démon sexuel, mais de destruction que l'homme porte, Harry. C'est la destruction par Selby, du coup, de ce modèle-là. Et en ce sens-là, ça m'a fait penser à mon dernier livre, La condition pavillonnaire, où aussi je voulais décrire au vitriol un certain modèle de bonheur conforme. Moi, je ne connaissais pas tant que ça Hubert Selby, et puis on parle très peu, parce que c'est vrai qu'il est un peu sulfureux, comme un peu Bukowski, on ne le présente pas tellement au scolaire. Mais parce que générationnellement, on pense plus que son premier livre, Last Exit to Brooklyn, est plus fondateur. Alors que celui-là, je trouve que c'est peut-être le plus cohérent, le plus réussi, le plus unifié comme livre. C'est vraiment un roman qui va à son but droit et qui a une vitalité extraordinaire. Et c'est vrai que c'est ce que je cherche dans mon dernier livre, c'est la vitalité, la puissance de vie, cette énergie-là qui est très très réjouissante. Même si elle est destructrice chez Selby, alors que moi, c'est vrai que on n'est pas fait pareil, je suis moins trash tout de même.
Alors on écoute Sophie d'Ivry quand le diable sortit de la salle de bain, qui va paraître pour la rentrée littéraire dans la collection Notabilia des éditions Noir sur Blanc.
Pendant une certaine période de ma vie, j'ai vu mon revenu divisé par 3 et mon appartement passer de 80 à 12 mètres carrés. Pour des raisons que nous verrons plus tard, je n'étais pas malheureuse, mais j'étais pauvre. Or, un matin d'avril, alors que je rentrais de la bibliothèque, une facture de régularisation EDF m'attendait dans ma boîte aux lettres. Ces salopards me demandaient 260 euros. Mon compte en banque en contenait 300. En tremblant, je remplis le chèque, le signai, le posté. Puis, je me dis qu'il fallait vraiment que je trouve du travail. Alors, je fis ce que tout le monde aurait fait à ma place, j'allumai mon ordinateur. Sur le site pôle-emploi.fr, je tapais mon identifiant, mon code secret et mon code postal pour parvenir sur mon espace personnel de chômeuse longue durée. Là, je lançais une recherche multicritère, en commençant par écrivain public, journaliste, puis professeur. Cela donna entre 0 et 6 résultats, aucun sur Lyon, ni sans la mention « permis B obligatoire ». Mes yeux se brouillaient. J'élargis ma recherche, responsable communication, surveillant d'internat, secrétaire, détective privé. Je n'arrivais plus à lire, tant le stress serrait mon ventre, car pendant que le site moulinait pour sortir d'improbables offres, mon cerveau refaisait sans cesse la soustraction 300 moins 260 égale 40. À qui la faute? Aux ampoules? Aux plaques de cuisson? À la bouilloire? Au chauffe-eau? À la boxe? Mon appartement est tout électrique. Le mois de janvier avait été particulièrement rude. La Saône avait gelé. Le quartier entier s'était figé sous le froid. Un brouillard glacial interdisant le moindre mouvement. Seules quelques fumées blanches s'échappaient des toits. Preuve pour certains du secours d'un chauffage central. Et dans ce paysage tétanisé, ces fumerolles semblaient comme autant de drapeaux blancs demandant grâce à l'hiver. 4 mois plus tard, alors que le printemps est censé ramener de la joie au cœur, je fusillais du regard mes convecteurs qui, indifférents à mes difficultés, hibernaient sous la poussière. Salaud de radiateur. 300 euros moins 260 égale 40. Affolé par cette simplissime et répétée soustraction, mon esprit essayait de nier l'évidence du résultat. Il recalculait sans cesse, espérant qu'apparaisse un autre nombre, afin d'éviter la question d'après, comment faire pour tenir 10 jours avec 40 euros? Comment faire, ou plutôt comment non faire, non acheter, non sortir, non vouloir, non métro, non bus, non shopping? non dessert, non viande, non bière, non marché, non 5 fruits et légumes frais, non café, non imprévu, non nouvelle facture, non nouvelle charge. Ces pensées se refermaient sur moi jusqu'à bloquer mes poumons dans une non-respiration qui m'aurait sans doute amené à une crise d'angoisse, puis à une séance de contemplage de plafond, lorsque mon ordinateur émit un bip qui me fit violemment sursauter. C'était un mail d'Hector, mon grand ami. J'avais connu Hector à la fac. Nous étions restés liés, ce qui est rare, j'ai horreur des amitiés qui ne se fondent que sur la commémoration d'un passé. Hector était plus intelligent et moins dégourdi que la moyenne, style cravate à pois sur chemise à carreaux. Brillant saxophoniste, il aurait dû devenir professeur de musique, mais sa santé fragile lui avait fermé la porte du conservatoire. Il avait été pris d'une crise d'asthme pendant l'examen. Depuis, il souffrait de précariat chronique, vivotant grâce à quelques cours particuliers, passant de petits boulots au giron de Pôle emploi. Hector promettait souvent de repasser le concours sans jamais s'y résoudre. Dernier détail avant de clore cette suspension du récit pour cause de présentation d'un nouveau personnage, Hector avait un tic très particulier qui nous sera utile pour la suite de notre histoire. Soit snobisme, soit instrument de défense contre la dévalorisation de soi qu'entraîne le chômage, soit encore coquetterie surannée en ces temps industriels, mon ami parlait par épithète antéposée. Malgré ce tic relativement insupportable, et pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, Hector était un indéfectible et attachant compagnon de misère, auquel je soumettais parfois mes angoisses, souvent mes difficultés et toujours mes livres. Comme tout écrivain, j'étais friande de ses commentaires sur mes travaux. Mais les obsessions de mon ami se portaient sur un autre sujet beaucoup plus croustillant. Car Hector était un des rares chômeurs que je connaisse qui parvenait à plaire à une ribambelle de filles qui étaient toutes, promis jurées, les femmes de sa vie. Mail de Hector in the Mouise, le 20 avril 2012 à 16h35, adressé à Sophie dans la Dèche. Objet, salut. Sais-tu que la belle Belinda, ma charmante voisine, m'a apporté une grosse part de délicieuses tartes aux pommes l'autre jour? Je croyais que c'était dans la poche, enfin dans le lit. Mais le lendemain, je la croise avec un affreux type qu'elle me présente comme son petit copain. Un balourd parisien prénommé Charles-Édouard. Un sale type, je suis dégoûtée. Tu vas rire, mais depuis, la jalousie m'a pris. Peut-être c'est parce qu'elle habite au rez-de-chaussée de mon immeuble, mais j'ai trop pris de retard avec cette fille. Je m'en veux à mort, je pense qu'à elle. Dès mon retour à Lyon, je fais le siège. Voilà, sinon je me fais nourrir par mes gentils parents, je fais des croisés mots. Pour me changer les idées, j'ai lu ton deuxième livre. Pas mal. Je parie que t'es déjà sur un autre. Tu connais mon avis. Si tu veux gagner de l'argent, faut quelque chose de gai, facile, du suspense, du sang, du sexe. À propos de sexe, tu crois qu'il faut que j'envoie un ambigu texto à Belinda? Faudrait pas qu'elle m'oublie, la donzelle. Bon, donne-moi ton avis là-dessus et surveille le quartier. Si tu vois son petit copain, quelle ridicule expression, envoie-moi un détaillé rapport. Bise, par mesure d'écologie, n'imprimez cet email que si nécessaire. Je reçus en même temps un mail de mon frère Élie avec une photo jointe. Sur un bateau de pêche, deux hommes de 40 ans tenaient fièrement un gros poisson mort. Le poisson pêché est un congre. Vois l'image jointe, je n'ai pas encore pêché un pélamide comme celui de ma copine hier à Puce Élie. Je relus, puis j'eus envie de lui envoyer la phrase de Marcel Pagnol. Se faire photographier avec un poisson, quel manque de dignité. Ce qui, accompagné d'un ou deux smileys et de bisous fraternels, fit une réponse rapide. Ah, Pagnol, crus-je entendre ma mère, quel homme, quelle plume. Me voilà devant ma fenêtre avec un léger sourire. Les torchères de faisans envoyaient dans le ciel plusieurs fumées grasses qui se rassemblaient en une inquiétante nappe noire, lourde comme une mauvaise conscience et qui planerait sur le moral des citadins toute la journée. Pendant que je contemplais la nasse urbaine, un nœud douloureux se reformait dans mon ventre, me rappelant que j'étais en train de vivre précédemment quelque chose de désagréable. Il y eut un instant de flottement, comme si cette angoisse n'avait pas de cause. Puis, en une fraction de seconde, ma pensée repassa par-dessus la photo du congre, par-dessus le mail d'Hector, et revint, comme mes yeux se détachaient du paysage et revenaient sur l'écran, butés sur la terrible question. 40 € et nous sommes le 20 du mois. Comment faire? Ah, ma fille, s'exclama Gréa, ma mère. Je ne te savais pas si pauvre. Il faut que j'apprenne ça dans tes livres. Si j'avais su, jamais je ne t'aurais laissé partir te consacrer à cette fichue littérature. Mes placards étaient vides. Comme souvent en fin de mois. Le mieux était d'acheter le maximum de denrées et de me barricader dans mon appartement. Ton appartement ? Continue Nia maman. Ceci n'est pas un appartement. Un studio, une studinette, une tente, une cabane, un refuge, une chambre à la rigueur, mais un appartement, non. Dans un appartement, il y aurait des rideaux. Dans un appartement, il y aurait des pots de confiture en haut d'une étagère, il y aurait un programme télé sur une table basse, il y aurait des biscuits apéritifs au cas où des amis te rendraient visite. Il y aurait un service de table. Je suis sûre que tu n'as pas de quoi recevoir 4 personnes avec un service assorti. Même les jeunes filles les plus artistes achètent ça chez un potier ariégeois. Un service de table complet, grande assiette, petite assiette, assiette à soupe et assiette à dessert. Quand tu auras un service de table digne de ce nom, tu auras peut-être le droit d'écrire le mot « appartement ». Lors de ma grande révolution, lorsque j'ai subi ma débâcle, ma conversion, soit les premiers mois où je devins pauvre, je fis l'erreur d'acheter en fin de mois des chaussures dont j'avais besoin. Je me suis retrouvée bien chaussée mais affamée. Cette erreur m'avait servi de leçon. La seule priorité qui vaille est la nourriture. Si je remplissais mes placards et ne bougeais pas de chez moi, je pourrais tenir. Puis stocker, c'est agir. Agir, c'est lutter. Lutter, c'est rester digne. Je devais aller au supermarché faire le plein de nouilles. Malgré cette résolution combative, je me rassis devant l'ordinateur. Une angoisse sourde m'empêchait de sortir. Une faiblesse physique aussi, à l'idée de parcourir les travées d'un supermarché avec la faim au ventre. Mon désespoir me porta à chercher une distraction. Automatiquement, inéluctablement, involontairement, la page de mon navigateur s'ouvrit sur le jeu en ligne Bubble Shooter. Je me mis à cliquer sur les différentes boules de couleurs. Chaque fois que l'une d'elles heurtait deux boules de la même couleur, le trio explosait. Et je sentais dans mon esprit, attelé à cette tâche élémentaire et stupide, une satisfaction répétée à chaque explosion. Mon œil captait l'animation graphique conçue par les inventeurs du jeu. Chaque boule se cassait de l'intérieur, un petit son, un nuage qui se dissout, puis le blanc laissé à la place des boules qui marquait la progression vers la victoire. Déjà, je recliquais pour envoyer une boule jaune vers les boules jaunes, une rouge près des rouges, éprouvant une mini-relaxation, détente immédiate et bébête, lorsque je parvenais à faire disparaître un trio, une mini-contrariété quand je n'y parvenais pas. « Ah ma fille, tu me fais honte, ça valait bien la peine de faire de si coûteuses études pour se retrouver à s'abrutir devant un ordinateur », commenta ma maman inquiète. Dans le parti des Français, on a des problèmes pour payer les factures, c'est une expérience humaine très partagée. De même que l'espèce de dispersion perpétuelle dans laquelle on est avec les mails, les téléphones, les textos, ou ce que j'ai lu, la manière dont l'esprit se repose avec des jeux stupides sur l'ordinateur. Or, quand on ouvre des bouquins, il n'y a plus jamais de facture. Moi, je suis toujours frappée de voir des fois le décalage entre la vie réelle et la littérature, ou des espèces d'euphémisations de romantisme qu'on peut trouver même aujourd'hui. Dire qu'après avoir lu, enfin, comme beaucoup, dans La Dèche à Paris et à Londres de George Orwell ou La fin de Quentin Soum, je trouve que ce sont des livres qui sont trop marginaux dans la littérature. Il y a très peu de livres finalement qui parlent de la fin, de la galère, de la misère. Donc ça m'intéressait pratiquement politiquement de faire un livre là-dessus parce que par réalisme ou par volonté de que ça existe. Après, évidemment, j'avais quand même une pulsion, une envie de vouloir importer dans la littérature des choses de l'ordre de la nécessité économique. Le chômage, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas drôle. La misère, c'est pas drôle. Avoir faim, c'est pas drôle. Par contre, la littérature est une fête. Et alors évidemment, c'est bizarre que les deux, il se trouve qu'à ce moment-là, les deux projets se sont rencontrés. Bon, ça fait quelque chose de qui détonne entre deux, un sujet qui est grave. Et puis moi, j'avais envie de faire quelque chose de pas sérieux parce que je trouve que j'avais envie de travailler cette idée de sérieux, cette idée de qu'est-ce qui est noble, qu'est-ce qui est pas noble, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, notamment en mettant des listes de papiers qu'on demande au CCAS ou à la CAF pour avoir des allocations, et des listes qu'on ne met jamais dans les bouquins. J'avais envie de montrer dans le côté administratif, hein, tout ça. Mais j'avais envie aussi de pouvoir dessiner des phallus dans mon bouquin, de pouvoir faire intervenir des personnages, de pouvoir écrire un conte pour enfants au milieu, de pouvoir avoir le diable qui apparaît, d'avoir les objets qui parlent. Et sans me poser la question, est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est pas cohérent, de mettre un grand passage délire musical, un grand passage misandrie, où j'ai beaucoup ri en l'écrivant. Et donc c'est ça, dans un sens où... Il y a une grande liberté, alors du coup ça dégage aussi d'énergie et j'espère de l'humour. Mais je voulais pas, moi, me dire il faut faire un bouquin sérieux. Etc. Peut-être parce que j'avais été aussi un peu trop là-dedans dans Quand on sent pavillonnaire, où j'étais très tenue par plein de... Je voulais faire quelque chose de très précis, de très tenue. Et là, c'était beaucoup plus débridé. Donc, je préviens qu'en effet, il ne faut pas tout prendre au sérieux. Quoi. Ce que je cherche à faire, c'est atteindre le but que dont le livre est porteur. Donc, s'il faut changer le style pour ça, s'il faut changer le moyen technique, littéraire, dont j'ai l'habitude, je vais les prendre. Mais... là, je voudrais proposer quelque chose qui est différent. C'est sûr que là, c'est un livre où il y a un peu toutes les littératures à l'intérieur. Donc, il y a aussi énormément de choses sexuelles et débridées, un peu sulfureux. Mais enfin, c'est quand même pas... D'ailleurs, c'est pas Bukowski. Quoi. Enfin, faut arrêter non plus. Quoi. C'est pas parce qu'on dessine un phallus dans un bouquin que c'est sulfureux, forcément. C'est plus potache, c'est plus gamin, hein, c'est plus pas sérieux, un peu infantile. Et donc, je me le permets. Voilà, c'est ça. Et enfin, créativement, c'est très fécond, ce genre d'état d'esprit. C'est typiquement ce que dit Jean Dubuffet en tant que peintre. Hein. Il dit qu'en fait, l'esprit de sérieux empesantit tous les actes créatifs. Et si on fait de l'art en se disant, il faut que je sois reconnu comme quelqu'un d'important, il faut que ce que les gens ont dans les mains soit respecté, il faut que ça continue. Ça devient, on fait de l'art compassé, de l'art pour bonne sœur, comme il disait, et ça éteint la fécondité artistique. Donc se dire dès le départ, voilà, je vais faire quelque chose d'improvisé, de père sérieux, de foutraque, et puis je vous les mets dans les mains, et puis voilà, c'est un roman improvisé, mais un peu comme le jazz, en fait. Mais après, évidemment, moi j'étais dans une énergie de digression, d'improvisation, et donc tout le travail, ça a été de garder une cohérence sur l'ensemble du livre, pour que l'histoire de cette jeune femme qui cherche un travail, qui se débat notamment au début du livre avec ses factures, tout ça, évolue après, notamment dans son rapport avec la famille, comment elle essaie de se retourner vers sa famille pour voir si elle peut être aidée. Bon, je lui ai inventé 6 frères, toute une histoire pas possible. Tout est un peu excessif dans le livre, donc évidemment. Et puis à la fin, elle retourne à Lyon, donc ça se passe à Lyon, elle trouve un petit job, mais qui va évidemment mal tourner. Voilà. Donc il fallait quand même qu'on s'identifie à elle, que vu que c'est un livre qui parle en tous les sens, que le fil rouge soit assez fort et que la tendresse qu'on ait pour ce personnage soit vite là, pour qu'on puisse se permettre de proposer au lecteur aussi plein de digressions et plein de tons différents. C'est vrai que là, j'ai lu le début, mais on aurait pu prendre un autre passage du livre où ça ne donne pas du tout le même effet en même temps. Et moi, justement, c'est cette difficulté parce qu'il y a à la fois une énorme diversité, une grande proposition de formes différentes, de thématiques différentes, parce qu'on pourrait aller dans des choses très politiques, très contemporaines. Et puis à la fois aussi des choses sur la maternité, la paternité, et donc c'est, j'espère que la cohérence se lie dans l'ensemble des 3 parties du livre et qu'on arrive à la fin quelque part, même si évidemment la thématique c'est quand même une loseuse, hein, c'est quand même pas win-win, hein, comme dispositif.
Chocolate man done come to town. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. Make you pretty girls jump and shout. Run and tell your mama what it's all about. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. Got chocolate kisses, get them from me while you can. If you like my chocolate, I don't mind. You can eat my bonbons 2 at a time. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses, get them from me while you can. I wear chocolate stockings, chocolate shoes. Open up the paper, read the chocolate news. I'm the chocolate man. Oh yeah, the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can.
Là, je vous ai amené un morceau d'Eric Bibb, qui est assez gay, et que j'écoutais beaucoup pendant l'écriture de ce livre. Alors moi, j'écoute pas la musique pendant que j'écris, c'est pas possible. Mais par contre, c'est un guitariste blues afro-américain que j'aime beaucoup. Et donc, la chanson s'appelle Chocolate Man.
Merci Sophie Divry.
C'était Sophie Divry qui nous présentait son roman « Quand le diable sortit de la salle de bain » qui paraîtra aux éditions Noir sur Blanc. Chocolate man, I got chocolate kisses. Now get them from me while you can. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Juan Richard Dufour. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. Off your finger, you can roll it on your tongue. Everybody glad when they see me come. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can. I'm the chocolate man. I'm the chocolate man. I got chocolate kisses. Get them from me while you can.